بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم النادر مفخد donc inshallah avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala nous poursuivons la traduction explication des différentes parties du Coran Sharif et nous sommes au 10e juz au 10e sipara dans lequel Allah tabarak wa ta'ala mentionne beaucoup de ahkam. Alors il y a une sourate qui c'est la seule sourate qui est débutée dans ce sipara qu'on appelle la sourate Tawba. Et la particularité de cette sourate dans le Coran Sharif, c'est qu'elle ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. Alors que toutes les autres sourates, vous allez voir qu'il y a Bismillahirrahmanirrahim écrit. Alors que dans cette sourate, Bismillahirrahmanirrahim n'est pas écrit. Pourquoi ? Brièvement, parce que lorsque Hazrat Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, il a compilé le Coran Sharif, alors il s'est aperçu que les premières sourates qu'il a classées, c'est-à-dire la sourate Al-Baqara, sourate Al-Imran, etc., elles comprenaient un certain nombre de ayats, plus d'une centaine. Et lorsqu'il est arrivé à la sourate Al-Anfal, alors il s'est aperçu que cette sourate Anfal, elle contenait moins de 100 ayats. C'est pour ça qu'il s'est dit que ça n'entre pas dans l'ordre. C'est-à-dire, comme les autres sourates avaient 100 ayats, le Coran Sharif, il a une certaine classification. Et donc, cette sourate également, Anfal, puisqu'elle contient moins d'une centaine de ayats, elle ne devrait pas être ici. Ça, c'est une première raison. Et deuxièmement, il a vu que le sujet qui était abordé dans cette sourate Anfal, le butin, dans le 9e sipara qu'on a vu, alhamdulillah, la dernière fois, et dans cette sourate Tawba, ils se rapprochaient. C'est-à-dire, ils étaient très similaires. Donc, il y a une possibilité que, en réalité, la sourate Anfal et la sourate Tawba ne sont qu'une seule et même sourate. C'est pour ça, peut-être, que Allah tabarak wa ta'ala, donc il n'y a pas Bismillahirrahmanirrahim écrit. On rapporte de Hazrat Ali radiallahu anhu, si je me trompe de lui, mais ça c'est plus une sagesse, une hikmah, qui mentionne en ce sens que puisqu'Allah tabarak wa ta'ala parle d'un ton strict et rigoureux dans cette sourate, par rapport, inshallah, on y viendra peut-être la prochaine fois, à un événement précis qui s'était passé. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait demandé que les gens aillent lors d'une guerre particulière. Et certaines personnes, certains sahaba, n'y ont pas participé pour diverses raisons. On y viendra, inshallah. Donc il y a en quelque sorte, on va dire, la colère d'Allah, tabarak wa ta'ala, qui est mentionnée. Et puisque le message de Bismillahirrahmanirrahim est un message de clémence, donc c'est pour ça qu'on va dire ça ne s'accorde pas. Alors maintenant, par rapport à ce qui se trouve dans ce juz et dans cette sourate, il y a beaucoup de ahkam et on va commencer, inshallah, donc dans cette première partie de fiqh qui sera probablement la plus complète et la plus longue, des règlements qui concernent le miraf, c'est-à-dire l'héritage. Alors malheureusement, on n'avait pas fait le 4e sipara parce que c'était un vendredi, donc on n'avait pas de cours. Et dans ce 4e sipara là, il y a un recours que les huffaz et kiram connaissent bien, alhamdulillah, qui est yusikumullahu fi awladikum. Et dedans, vous voyez qu'à plusieurs reprises, il y a différentes expressions qui reviennent, walahunna rubu'u, falahunna thumunu, falumihi sudus, etc. Et en fait, Allah tabarak wa ta'ala parle ici des parts qui sont réservées, on va dire, pour les héritiers. Alors on va parler de cela, pourquoi ? Parce que dans ce 10e sipara là, on n'avait pas pu le faire là-bas, et aujourd'hui aussi, inshallah, ça se rejoint. Il faut comprendre que à l'époque du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que l'héritage se passait ? Les gens qui avaient émigré, qui avaient quitté Makkah Mukarrama pour aller à Madina Munawwara, et pour reprendre les termes de Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, à ce moment-là, puisque les musulmans étaient persécutés, puisqu'ils ne pouvaient pas pratiquer sur le dîn correctement, et donc puisqu'il y avait beaucoup de difficultés, il était obligatoire pour eux de quitter Makkah Mukarrama pour aller à Madina Munawwara, donc de faire la hijra. Ça nous amène à un deuxième masala qu'on va mentionner tout de suite, inshallah, c'est que justement, est-ce que dans quel cas un musulman il doit quitter son pays ou pas ? Dans quel cas il sera obligatoire pour lui de quitter son pays et dans quel cas il ne le sera pas ? Alors, Hazrat Ma'ana Anas Lala, Damat Barakatuhum, a écrit un article très détaillé dans son site, vous pouvez le voir. Et brièvement, en deux mots, pour reprendre les mots de Hazrat Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhim, si on est dans un tel pays, dans une terre non musulmane, on ne peut pas faire la prière, on ne peut pas faire le jeûne, on ne peut pas remplir nos obligations, on va dire quotidiennes et habituelles d'un musulman, et on ne peut pas non plus s'abstenir des interdits, alors dans ce cas-là, il sera sera obligatoire de quitter et d'émigrer, de quitter ce pays. En revanche, si nous sommes dans un pays où, alhamdoulilah, il y a beaucoup de facilités, etc., mais malgré tout, il y a une dominance de l'indécence, de l'immoralité, du manque de pudeur, etc., du fisq et du fujour, alors Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayh, il nous dit que ça sera dans tous les cas mustahab. Donc ça c'est dans Ma'riful Qur'an, le quatrième volume, à la page 340. Donc pour revenir à ce qui a été dit précédemment, les musulmans à l'époque à Makkah Mukarrama, Allah tabarak wa ta'ala, il a envoyé l'ordre qu'ils quittent Makkah pour qu'ils aillent à Madina Munawara, l'ordre d'émigrer, parce que ce n'était plus possible, ils ne pouvaient pas faire la salah, ils ne pouvaient pas pratiquer, ils ne pouvaient pas même pas se dire, se montrer musulmans, et ils avaient à subir beaucoup d'affronts, et ne pouvaient pas se défendre. Donc quand ils ont quitté ces muhajirs, ils sont arrivés à Madina Munawara. Et puisque les gens qui étaient à Makkah, c'était leur famille, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de cas qui étaient les suivants. Parfois le père était musulman et le fils ne l'était pas, ou alors le fils était musulman et le père ne l'était pas. Et puisqu'Allah tabarak wa ta'ala, dans tous les ordres qu'il nous enjoint à pratiquer, alors le principe, on va dire, le but en particulier, c'est quoi? C'est de garder et de perpétuer le dîn. Donc le père non musulman ne pouvait pas hériter du musulman, et le fils musulman du père non musulman, etc. Et ça, c'est une règle qui est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un, ses parents malheureusement ne sont pas musulmans et qu'il décède, il quitte ce monde, cette personne-là, il ne pourra pas hériter au niveau de la charia de ses parents. En revanche, si ses parents lui font un don durant son vivant, alors là, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la petite explication. Donc quand ils étaient à Madina Munawwara, le principe de l'héritage, c'était quoi? C'était que les muhajir et les ansar, il y avait l'héritage entre eux. C'est-à-dire, les muhajir héritaient des ansar et vice-versa. Après, Allah tabarak wa ta'ala, il a abrogé cette loi et il a remis la loi, on va dire, sous sa forme originelle, et il a dit que maintenant ce sont entre les personnes de la même famille. Wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont la priorité les uns envers les autres. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on parle de ça, et inshallah, pour un peu, on va dire, développer et apprendre sur ce sujet qui est très 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 important et qui malheureusement parfois est très souvent délaissé et qui amène des problèmes et des conflits également. On va faire une brève explication. Alors, dans ce quatrième sipara là, quand on a dit dans ce verset, dans ce ruku, yusikum Allahu fi awladikum, Allah Ta'ala, il parle des parts qui sont réservées aux différents héritiers. Et les héritiers, ils sont, on va dire, de trois types. Il y a ce qu'on appelle une catégorie, ce qu'on appelle les dhawil furud. Les dhawil furud, ce sont qui? Ce sont les personnes dont Allah tabarak wa ta'ala, il a stipulé clairement leur part dans le Coran Sharif. Par exemple, Allah tabarak wa ta'ala, il dit wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus. Pour les deux parents, ils vont avoir un sixième. C'est-à-dire la personne qui est décédée, par exemple si moi je suis mort, alors mes parents, ils vont avoir un sixième, d'accord, de ce que j'ai laissé. Ça, c'est une partie des Dhawil Furud. Ensuite, vous avez une autre partie qu'on appelle les Asabat. Et les Asabat, également, il y a différentes parties, ce qu'on appelle Asabat et Nasabiya, Asabat et Birayrihi et Ma'arayrihi. Donc ce sont des catégories. Et d'abord, lorsqu'on va partager l'héritage, avant même de partager l'héritage, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on va dire la somme et le capital que cette personne, ce défunt, il a laissé là, on doit l'utiliser d'abord pour les dépenses qui sont liées aux funérailles, ensuite pour payer les dettes de cette personne, ensuite pour remplir la wasiyya, c'est-à-dire le testament que cette personne il a fait là, de remplir ça. Après avoir fait ces trois choses là, alors on va distribuer les parts. Et maintenant, ces awil furud, ce sont qui, brièvement, pour qu'on ait une petite idée, inshallah? Les hommes, c'est le papa, c'est le grand-père paternel, et ce sont le mari et Akhiafi, les frères Akhiafi, ce sont ceux qui ont le même père, Akhiafi, les frères qui ont le même père. Et pour concernant les femmes, c'est donc la femme de la personne, la maman, la fille, le fils de la fille, les véritables sœurs, etc. Bon, ça c'est ce qu'on appelle les Dhawil Furud. Ensuite, on a les asabas, c'est-à-dire quand on a déjà partagé à ces gens-là, s'il reste encore de l'argent, alors on va partager à ces asabas-là. Et ces asabas, brièvement, en gros, on va dire, qui est compris dans ces asabas? Il y a le garçon, il y a le petit-fils, etc. En descendant, il y a le papa, le grand-père, etc. Donc, il y a plusieurs catégories. Et ensuite, on va dire pour mettre un peu de piment, on va dire, on va essayer de faire un petit cas pratique. Ça veut dire ça dans les madaris en général, ils font ça. Et ceux qui sont bons en maths, alors mashallah, alhamdoulilah, ils s'en sortent bien. Et ceux qui sont un peu moins bons, ils se sentent un peu moins bien. Alors on va prendre un petit cas pratique assez simple, inshallah. Quelqu'un, par exemple, il est décédé. Et il lui reste, c'est une dame qui est décédée. Il lui reste son mari, d'accord. Il lui reste son papa. Il lui reste trois garçons. Et chaque cas d'héritage, il va être différent. Parce que chaque famille est différente. Certains, ils ont six garçons, l'autre, ils ont quatre filles, etc. etc., etc. Alors, la dame est décédée, il lui reste son mari, il lui reste son papa, et il lui reste trois garçons. Et dans le Coran Sharif, Allah Ta'ala, il dit que si une dame est décédée, attention, là, on va faire appel au Hufaz, Inch'Allah. Si une dame est décédée, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ. Mais le ayat concernant le mari, c'est... Bref, s'il y a des enfants, c'est-à-dire si cette dame, elle a des enfants, alors le mari, il va avoir un quart. Il va avoir un quart. Donc dans ce cas-là, puisqu'elle a des enfants, il va avoir combien? Un quart. Et le père, il lui reste un père, c'est-à-dire à cette dame qui est décédée là, il lui reste son père également. Et comme on a dit tout à l'heure, pour les parents, c'est un sixième. C'est combien? Un sixième. Et ensuite... Elle a également trois enfants. Alors, il y a le papa qui doit avoir un quart. Il y a il y a le mari qui doit avoir un quart. Il y a le papa qui doit avoir un sixième. Ça, ce sont les vawil furu. C'est-à-dire, en premier, on doit les donner. Mais quand on va donner un quart, on va donner un sixième, il va rester de l'argent. C'est là qu'on passe à la deuxième catégorie. C'est-à-dire les asabat. Et là, puisqu'il y a trois enfants, on va partager à eux. Maintenant, là, ça devient plus intéressant. Il faut trouver un dénominateur commun. On a fait ça à l'école, en mathématiques. Alors, entre un quart et un sixième, quel dénominateur commun? Il ne faut pas regarder l'ordinateur. Un quart et un sixième. Oh là là, t'es 12. Subhanallah. Un quart pour le papa. Pourquoi on va mettre un dénominateur commun? Comme on fait en mathématiques pour être plus facile pour compter sur les fractions. D'accord? Alors, le papa, il va avoir un quart. Le mari va avoir un quart. Le papa, il va avoir un sixième. Donc, on va trouver un dénominateur commun. Ce sera 12. Et un quart, quand vous transformez en 12, vous allez multiplier 4 par 3. Donc 1 fois 3, ça fait 3 douzièmes. Ce qui fait que le mari va avoir 3 douzièmes. Et le papa, il va avoir 2 douzièmes. Parce que 1 sixième, vous avez mis en 12. Tout le monde me suit là? Pas trop fort en maths, on dirait. Hein? Oh là là. Vous pensez que n'aurait été plus... Non, elle n'est pas facile, effectivement. Et ça, c'est un cas simple. Wallah. J'ai trouvé, alhamdoulilah, un très beau livre qui est en anglais, qu'on a téléchargé, alhamdoulilah, sur un site qui s'appelle Ilm al-Fara'id, pour, alhamdoulilah, les ulama, etc., qui veulent, et les muftis, en général, qui font ces cas. Et, subhanallah, parfois, même dans la madrasa, imaginez qu'il y a je ne sais pas combien de frères, combien d'enfants, etc., etc. Donc, et parfois, c'est assez complexe. Donc là, le papa, il va avoir 2 douzièmes. Donc, 3 douzièmes pour le mari, et 2 douzièmes pour le papa. Ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Donc, il nous reste combien de douzièmes? 7. Donc ces 7 douzièmes là, ils vont être partagés entre les 3 enfants. Vous avez compris? Et voilà comment on a distribué les parts. Donc pour chaque cas, c'est assez différent. Mais ça c'est quelque chose qui malheureusement c'est assez délaissé. Et bien sûr, ce partage là, ce mode de partage, il sera appliqué lorsque la personne, c'est-à-dire lorsque la personne qui est décédée, par exemple le père, etc., il n'a pas fait la distribution de ses biens avant sa mort. Si par exemple il avait déjà distribué, il avait fait tamlik, etc., on avait pris, alors là il n'y a pas de problème, inshallah, là-dessus. Donc voilà. Ensuite, un autre mas'ala très très important qu'Allah tabarak wa ta'ala mentionne dans le Coran Sharif, dans ce 10e sipara, c'est celui de la zakat. Et dans un des versets, Allah tabarak wa ta'ala, il mentionne ce qu'on appelle les masarif. Masarif, ça veut dire les personnes à qui on peut et on doit donner donc la zakat. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit en ce sens, innamas sadaqatu lil fuqara, etc., etc., etc. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il mentionne 8 catégories de personnes à qui on peut donner la zakat. Les pauvres, les fuqara, wal masakin, les indigents, ceux qui y travaillent, wal amilin alayha, c'est-à-dire pour obtenir qu'ils vont, le gouvernement, on va dire islamique, ils mettent en place des gens qui vont aller récolter la zakat. D'accord. Wal mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. وفي الرقاب les jougs, ça veut dire les esclaves. Mufti Shafi Sahib Rahmatullah l'a expliqué, on va passer dessus. Wal-gharimina, ceux qui sont lourdement endettés. Wafi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Wabni sabil, et pour le voyageur. Donc voilà les 8 catégories à qui on peut et on doit donner la zakat. On ne peut pas donner à quelqu'un qui ne fait pas partie de ces catégories-là. Alors la zakat, c'est un pilier de l'islam. Inch'Allah, faites-toi peut-être vendredi prochain, on a l'intention de faire un peu le bayan là-dessus, si Allah Ta'ala le permet, parce que c'est très important. Et malheureusement, là également, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup d'incompréhensions également. Parfois, on ne calcule pas correctement, parfois, on ne donne pas correctement, parfois, on donne, mais on va dire, le but, il n'est pas réalisé. Pourquoi? Parce que Mufti Shafi Sahib Rahmatullahi Alayhi, subhanallah, il a vraiment longuement développé ça. Et il nous a dit à un moment que parfois, et malheureusement c'est une pratique qui devient de plus en plus courante, c'est que vous remettez votre argent de zakat à quelqu'un, d'accord, ou bien à une organisation ou à des personnes. Et ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont votre représentant, votre wakil. C'est-à-dire le zakat, ce n'est pas pour eux, c'est pour que ces personnes distribuent pour vous. D'accord? Par exemple, ils distribuent aux pauvres, aux nécessités, etc. Mais là où Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayhi, on va reprendre ces mots à la page 399, volume 4, il nous dit quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de négligence et ça augmente, ça va en accentuant. Bohat c'est ada idare zakat ka fund usul karke usko salaha sal rakte rehdehe. Ça veut dire vous les avez donnés, mais ils gardent en leur possession, ils n'ont pas encore distribué. Or, ashab zakat samajtehe, c'est-à-dire vous qui avez donné, puisque vous avez donné à cette organisation, vous pensez que vous avez donné votre zakat, mais ils n'ont pas encore distribué. Que hamari zakat ada ho gay. On pense que notre zakat, c'est bon, ça a été donné. Hala ki unki zakat is waqt ada ho gi jab unki raqam masarif zakat mi sarf ho jay. Tant que votre argent est encore à la possession de ces organisations et qu'ils n'ont pas encore distribué, vous n'avez pas encore donné votre zakat. Vous pensez que c'est fait alors que ça n'est pas fait. Et Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali dit que malheureusement c'est quelque chose envers lequel malheureusement on ne porte pas attention à ça. Donc ça c'est une chose qui est importante. Deuxième chose très importante, si on a donné nous-mêmes, et là également il faut faire attention, il ne faut pas juste dire peut-être telle personne, bon c'est bon, sans avoir au préalable bien recherché, bien vérifié, parce que là on ne parle pas de sadaqa nafila, même si le mot qu'Allah tabarak wa ta'ala utilise innama sadaqat ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire zakat, sadaqat farz, ça veut dire la zakat qu'on doit donner. Mais la sadaqa nafila, c'est beaucoup plus souple, ça veut dire la charité, vous pouvez faire aux musulmans, vous pouvez faire aux non-musulmans aussi, même si vous donnez à quelqu'un qui a les moyens, il n'y a pas de problème là-dessus, d'accord. Mais la zakat, ça c'est unique, c'est un ibadat, on y viendra inshallah, c'est un acte d'adoration, c'est un pilier de l'islam, donc il faut faire bien attention qu'on donne aux musulmans et aux musulmans qui le méritent. Ça c'est une chose, c'est le masarif qu'on fait, qu'on donne bien. Et deuxième chose que Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il a mentionné, c'est quoi? C'est mas'ala et tamlik. Ça veut dire il est important que lorsqu'on donne sa zakat, on donne à la personne, et même en français, le mot même, il veut dire ça. Lorsqu'on donne, cette personne, elle doit devenir propriétaire. Il doit obtenir cette zakat-là. Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali, il dit « Yé shadhe ke un masarif, mais c'est kisi mustahik koma les zakat par malikana qabza de diyajay. Bagheir malikana qabza diye, agar koi mal unhi logon ke faïda ke liye kharaj kar diyajay, to zakat ada nahi hogi. » Aussi, وجه سي ائما اربعه اور جمهور فقهاء امه اس پر مستفق ہے کہ رقم زکات کو مساجد یا مدارس یا شفاخانہ یتیم خانہ کی تعمیر میں یا ان کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں. Même si vous avez donné la zakat pour une masjid, vous n'avez pas le droit. Vous avez donné pour une madrasa, vous n'avez pas le droit. Vous avez donné pour un hôpital, n'est pas. Pourquoi? Parce que la masjid, il faut que la personne devienne propriétaire. Vous avez compris? Donc ça aussi, il faut faire attention. Et Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali, il l'a dit, vous avez entendu, Jamhur Fuqaha Ummat, ça veut dire tous les A'imma Arba'a, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanifa Rahimahullahu Ta'ala, ils sont tous d'accord là-dessus. À tel point que Mufti Shafi Sahib Rahmatullah, il développe aux pages 409 et 410 de Ma'riful Qur'an, volume 4, il dit qu'il y a ittifaq là-dessus, Et même Imam Sarakhsi, rahimahullah ta'ala, il se met à la que Imam Muhammad, qui kitabon, qui charte mabsoud, charte mabsoud, pardon, or charte siyar, mais pour y tahkik au tafsir, qui s'est dit, kahir, fuqahai, shafi'iyya, maliki, hanabila, qui am kitabon, mais ce qui est tasrihat, maoujoud. Ça veut dire qu'il n'y a pas de divergence là-dessus. Par contre, Mufti Shafi Zahib, rahmatullah alayhi, il a mentionné également, il dit, il y a une possibilité, c'est quoi? Si par exemple, il donne le cas d'un orphelinat. Vous avez des enfants qui sont orphelins, donc eux, ces enfants-là, ils méritent la zakat. Mais vous ne leur donnez pas directement, vous donnez par exemple à cet orphelinat qui vont acheter de la nourriture et qui vont donner cette nourriture aux enfants. Ça veut dire là, ils prennent possession, ils deviennent propriétaires dans ce cas-là, alors ça sera possible. Et deuxièmement, on va dire à titre d'argument également, Allama Kassani, rahimahullah ta'ala, dans Bada'i al-Sana'iyah, il dit en ce sens, la preuve, le dalil qu'il donne que cette milkiyat, c'est-à-dire de devenir propriétaire, c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est que le mot même qu'Allah ta'ala, il a utilisé dans le Coran Sharif, c'est quoi? C'est ita. Ça veut dire, Allah t'a dit, wa aqamu s-salah, wa atu s-zakah, wa aqimu s-salah, wa atu s-zakah, iqamati s-salah, wa ita s-zakah, atu haqqahu, etc. Donc ce mot ita, dans la langue, on va dire, dans le vocabulaire, ça veut dire quoi? Donner à quelqu'un. De la même manière, Imam Raghib Asfahani, rahimahullah ta'ala, dans Mufradat al-Quran, il dit, wal ita al-i'ta wa khussa wad'u s-sadaqati fil Quran. Bil-ita. Ça veut dire qu'il faut vraiment donner donc à cette personne-là. De la même manière, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah nous dit que lorsqu'Allah Tabarak wa Ta'ala il parle du meher, il dit wa atun nisa'a saduqatuhunna nihla. Ça veut dire donner aux femmes leur dot. Ben, donner, ça veut dire quoi? Lorsqu'elles vont prendre possession. Donc ça veut dire que pour ce ibadat de zakat-là, il est extrêmement important. Et il faut faire attention parce que malheureusement, parfois, il peut y avoir, donc, on va dire, des petites dérives par rapport à cela. Allah Ta'ala, il nous fasse comprendre, Inch'Allah. Ensuite, pour la deuxième partie des péchés, Mufti Shafi Sahib Rahmatullahi Alayhi, donc même dans cette première partie-là, il a expliqué vraiment des choses très intéressantes concernant le Baytul Mal, ça veut dire le trésor public, comment est-ce que cela a été séparé, de la même manière, et pour qui cela était donc distribué, utilisé. De la même manière, lorsque les Sahaba, radiallahu anhum, ils allaient en guerre, en conquête par exemple, et ils obtenaient le butin, alors comment est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a dit que ça doit être partagé? Wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin min sabil, etc., etc. Donc un cinquième pour telle catégorie, etc., etc. On ne va pas entrer dans les détails. Donc Allah tabarak wa ta'ala il a mentionné ça également, et inshallah peut-être qu'après inshallah quand on aura un peu plus de temps on y reviendra. Enfin, donc on va passer un peu, oui, pour la partie péché. Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il a mentionné que comment le fait de remplir sa promesse. Et il a dit à travers ce verset, Alladhina yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun, en faisant référence aux Yahoud, lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Madina Munawwara, alors on va dire pour former un peu le entre guillemets le pays islamique musulman, il ne s'est pas basé sur d'autres critères si ce n'est celui de la religion. Khalaqakum minkum fa minkum kafirun wa minkum mu'min. C'est-à-dire tous les sahaba radiyallahu anhum pour former, on va dire, cette communauté là, il s'est pas basé là-dessus. Et ensuite, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu également que à Madina Munawwara, il y avait les Yahoud qui étaient là. Donc il y a eu un traité de paix entre les Yahoud et les musulmans. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé lors de la guerre de Badr? Alors ils ont rompu ce traité de paix là, ils sont venus, ils ont demandé pardon au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté ce pardon. Deuxième fois, ils ont encore allés à l'encontre de leur promesse lors de la guerre de Uhud, si je me trompe, et là le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sous l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a décidé donc de ne pas accepter le pardon. Il a pris les mesures et les directives qui étaient applicables à ce moment-là. Donc voilà un peu pour la partie donc des péchés brièvement. Enfin, notre troisième partie, celle de la tazkiya. Allah tabarak wa ta'ala, il mentionne plusieurs choses. D'abord, on peut voir l'importance du dhikr d'Allah tabarak wa ta'ala à travers ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqintum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ça veut dire, même lorsque vous êtes dans le combat, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez ferme et invoquez beaucoup Allah tabarak wa ta'ala. Ça veut dire, à travers le dhikr, vous allez obtenir cette force interne qui va vous donner, donc inshallah, cette envie et qui va vous permettre de rester ferme. De la même manière, dans un ayat du Coran Sharif, Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Ça, c'est le ayat qui est écrit en deuxième ici, voyez en haut là, en deuxième, innama ya'muru masajid Allah. Et ça veut dire quoi? Ne peupleront les mosquées d'Allah tabarak wa ta'ala, les masajid, que ceux qui croient en Allah au jour dernier ceux qui accomplissent la salat, qui acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Mufti Shafi Sahib rahmatullah, il dit, et c'est un hadith sharif également de l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, que Ibn Kathir rahimahullah ta'ala il a mentionné si je me trompe, il dit: lorsque vous voyez quelqu'un fréquenter la masjid, alors attestez, ça c'est la preuve que cette personne-là elle a la foi, cette personne-là elle a l'iman. Et de la même manière, Mufti Shafi Sahib rahmatullah dit, on apprend donc à travers ce ayat que la personne qui va protéger, qui va nettoyer, qui va s'occuper des affaires de la masjid, ou celui qui fréquente la masjid pour adorer Allah, faire le dhikr, lire ou enseigner le Coran, alors ça c'est une preuve que inshallah cette personne elle a l'iman, elle a la foi. De la même manière, Mufti Shafi Sahib rahmatullah il a donné pas mal de hadith et mubaraka concernant les vertus donc de venir à la masjid. Dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens: man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu nuzulan kullama ghada aw raha, ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va venir le matin ou le soir, il va venir à la masjid, alors inshallah chaque fois qu'il va venir, Allah ta'ala va préparer un degré pour lui dans le paradis. De la même manière, Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il nous dit que dans les riwayat, Hazrat Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu, il dit que la personne qui vient à la masjid, c'est l'invité d'Allah. Et il dit que la personne qui reçoit un invité, alors c'est son devoir de, on va dire, d'honorer cette personne-là. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il nous honore par rapport à ça. De la même manière, dans Muntakhab al-Hadith, il est écrit en ce sens que la personne qui est un pilier de la masjid, ça veut dire tout le temps, alhamdoulilah, il est là. Lorsqu'il n'est pas là, les anges, ils vont rechercher pourquoi. Pourquoi cette personne elle n'est pas là, et si cette personne est malade, ils vont visiter cette personne, etc., etc. Donc Allah tabarak wa ta'ala nous fasse comprendre la valeur de la masjid, la valeur de la maison d'Allah tabarak wa ta'ala, une valeur qui est tellement grande que dans le Sahih al-Bukhari, à la page 91 et 191, il dit en ce sens comme ça: parmi les sept personnes qui seront à l'ombre du trône d'Allah tabarak wa ta'ala, une de ces personnes c'est qui? La personne dont le cœur sera attaché à la masjid. Donc on essaye de venir, on essaye d'avoir l'amour et l'envie d'être dans la maison d'Allah tabarak wa ta'ala, car ce sont, on va dire, les meilleurs endroits sur cette terre. Et enfin, ben voilà en gros un peu, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il avait également mentionné les vertus du dhikr à travers ce verset là: aja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawm al-akhir wa jahada fi sabilillah. Mais inchallah on va arrêter là-dessus. Allah tabarak wa ta'ala nous donne la compréhension inchallah de ces quelques paroles. Allah tabarak wa ta'ala fasse que inchallah les ahkam, ça veut dire les ordres qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a donné, bien sûr dans une première partie, et en général ça on fait plutôt bien inshallah avec l'aide d'Allah ta'ala les ibadat, ça on connaît, ça veut dire faire namaz, tilawat, zikar, etc., etc. Mais également lorsque Allah tabarak wa ta'ala par exemple il nous parle d'héritage, alors là également c'est quelque part un test de la foi. Il ne faut pas qu'on se défile, il ne faut pas qu'on se défie, et il ne faut pas qu'on se dise ah ben non, là par contre non, ça a trait à la monnaie, donc non on ne veut pas partager, etc. comme ça. Ça aussi c'est une demande de la foi, une demande de notre iman, et on doit arriver, comme on avait dit précédemment, que Mufti Shafi Sahib rahmatullah a dit, que la révélation du Coran Sharif en elle-même, un début, c'est quoi? C'est que même notre manière de penser, notre manière de vivre, notre manière d'agir, tout soit basé sur le Coran. Et vous avez vu brièvement, même si on n'a pas le temps, même moi on n'a pas le temps d'aller plus profondément, il y a tellement de choses à expliquer et à lire, à comprendre là-dedans. Combien d'ahkam, combien d'ordres Allah Ta'ala il a mis dans le Coran Sharif, combien de conseils il ne nous a pas donné. Et le but du Coran c'est ça. Et Alhamdulillah, vous venez, vous participez, ça c'est une très bonne chose. Nous aussi, Alhamdulillah, Allah il pardonne, il accepte. D'ailleurs, il y a une parole en ce sens qui vient à l'esprit, qui dit en ce sens, si je me trompe, c'est dans Mousnadé Bazar, dans un de ses programmes également, il avait mentionné. Il dit que la personne qui va venir à la masjid avec cette intention d'apprendre ou d'enseigner quelque chose, Allah lui donne la récompense d'un hajj. Allah lui donne la récompense d'un hajj. Donc Allah il fait qu'inch'Allah on fasse ce niyat-là également. Allah il nous pardonne nos péchés. Il fait que dans tous les domaines de la vie, ça c'est important, ça c'est très important, il faut être musulman dans tous les domaines de la vie. Lorsque la mort arrive, il faut partager l'héritage, lorsqu'il faut faire le testament, lorsqu'il y a des dettes, lorsqu'il faut marier, tous les domaines de la vie, nourriture, de plus, on va dire, simple, habituel, quotidien, jusqu'au plus rare ou même compliqué. Allah tabarak wa ta'ala nous fasse, inshallah, suivre les pas du prophète d'Allah et de sa religion avec afiyat et rahat. Walhamdulillahi rabbil alamin, rabbana taqabbal minna.